Les cours du Collège de France, Louis Fensterbank, chaire Activation en chimie moléculaire.
Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour ce premier cours consacré à la chimie radicalaire et dans un programme qui va s'appeler d'une chimie radicalaire de moins en moins radicale où on va effectivement suivre l'évolution de la chimie radicalaire avec une perspective réellement de réactivité, mais de réactivité qui se verdit avec le temps. Je pense que ça, je vais l'allumer. Hop. Voilà. Ça a l'air bon. C'est bon. Et donc, juste pour commencer, sauf que là, ça passe pas. Ouais, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Un petit peu de bibliographie pour illustrer ce cours. En fait, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis à différentes périodes. Et il ne s'agit pas de les consulter tous, mais qui font référence pour certains contextes. Et le plus récent étant cette encyclopédie Science of Synthesis, qui a été publiée en 2020. Et donc une série de chapitres consacrés à la chimie du moment. Et globalement, si on revient en arrière, ici c'est le livre, un des livres fondateurs de Bernd Guiseux, qui a été un des gros contributeurs de la chimie radicalaire, qui est assez facile à lire et finalement qui reste intéressant parce qu'il donne une source de transformations qui sont encore finalement actuelles, au moins sur leurs principes. Pareil pour celui-ci, c'est la version, on va dire, plus britannique des choses. Et ce livre-là, « Theoretical Organic Chemistry », en fait, celui-là, je le recommande si vous êtes vraiment dans le domaine, ou c'est polymériste ou moléculariste, parce que c'est une compilation de beaucoup de données de physico-chimiques. Il est d'ailleurs sur le... Ici, je l'ai là. Je peux vous le montrer, c'est un petit format. Il est assez facile à consulter. Et il est assez bien fait. Il existe en version française ou anglaise. Alors celui-là en 96 par Curran, Porter et Guise est vraiment le livre qui a fait référence pour toute la stéréochimie, qu'elle soit statique ou dynamique, et notamment tous les modèles de stéréochimie des réactions radicalaires, parce que contrairement à une idée reçue, on peut faire de la synthèse stéréosélective avec les radicaux. C'est pas parce qu'ils perdent leur configuration qu'on ne peut pas les contrôler, les processus, bien au contraire. Celui-ci également, deux tomes, a vraiment fait référence parce que là aussi, c'est vraiment une source de beaucoup de réactions. Il est généralement dans beaucoup, beaucoup de bibliothèques. Ça, c'est téléchargeable sur Internet, donc c'est facile. Et il y a aussi cette encyclopédie qui avait fait, on va dire, hein, vous voyez la transition, c'est les années 2010. Et puis donc, celle plus récente, la nôtre, là, celle de 2020. Mais là, c'est des volumes qui sont assez conséquents. Alors, donc, la chimie radicalaire... Qu'est-ce que c'est par rapport à la chimie classique? Une bonne partie de la chimie que l'on voit initialement, c'est les réactions de substitution nucléophile, très classiquement, et donc ça va être des processus dits hétérolytiques, donc à deux électrons où on a cette flèche pleine, où on va former des espèces chargées, puis qui vont réagir entre elles de diverses façons. Et ça, c'est la chimie, on va dire, qui occupe un volume très très important et qui reste encore très très conséquente. Parfois, les charges ne sont pas complètement exprimées, ça peut être simplement des densités électroniques différentes, mais bon, globalement, la chimie a deux électrons. Et puis, aussi une chimie à un électron, où globalement, on va avoir ces demi-flèches ici, pour symboliser qu'il n'y a qu'un seul électron qui est impliqué. Donc ici, je prends une rupture homolytique, où je vais engendrer deux radicaux A et B. Et ces deux radicaux donc sont des espèces neutres, contrairement à ce qu'on a ici, évidemment, il n'y a pas de charge, ce qui ne les empêche pas d'être très réactifs, puisque globalement, dans le cas du carbone, par exemple, typiquement, ça va être un carbone à 7 électrons qui va donc ne pas être qui va pas avoir les 8 électrons requis par l'octet, et donc qui va être très réactif. Évidemment, la chimie radicalaire, tout de suite, ce que l'on voit, c'est du fait que ces espèces sont neutres, elles n'ont pas ce problème des sels. On va dire des contre-sels qui peuvent être un vrai problème quand vous faites des réactions de substitution. Vous savez que de la réaction de substitution type SN2, les effets de contre-ions peuvent être importants, même en SN1 aussi. Là, on s'allège d'un certain nombre de problèmes. On en a d'autres, c'est qu'on a peut-être des systèmes qui sont trop réactifs. On viendra d'ailleurs un petit peu sur les cinétiques comparées des deux systèmes. Alors, quel type de radicaux on va rencontrer dans ce cours? Principalement des radicaux C-centrés, donc à 7 électrons, différents types d'hybridation, mais aussi des radicaux hétéroatomiques, le sel point, ber point, les radicaux oxygénés, les radicaux azotés, parce que globalement, ils peuvent être intéressants dans différents types de contextes. Donc c'est aussi, il faut voir comment les engendrer proprement, parce que là on arrive à des radicaux quand même qui sont particulièrement réactifs. Pourquoi la chimie radicalaire peut être intéressante et pourquoi c'est une formation qui est a priori indispensable dans un cursus en chimie organique, mais même à la rigueur dans un cursus, on va dire presque chimique au sens large? Parce que d'abord, bon, c'est une méthodologie qui, en chimie organique, typiquement, s'impose de plus en plus. Et là, je pense que la part de la chimie radicalaire, quand vous anticipez une synthèse, a vraiment beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'avant, ça restait, on va dire au XXe siècle, c'est une chimie relativement marginale. Et depuis quelques années, il est difficile de ne pas trouver dans un journal quelconque au moins plusieurs papiers de chimie radicalaire à la suite. Donc là, clairement, la scène a changé. Donc ça permet aussi bien de faire de la synthèse asymétrique que de la synthèse de produits naturels. C'est complémentaire à beaucoup de réactions ioniques, voire des réactions péricycliques. Et puis c'est vrai que la catalyse photorédox, qu'on va voir un petit peu plus tard dans le déroulé de ce cours, a complètement changé la façon d'envisager la chimie radicalaire, l'a simplifiée, l'a rendue plus douce. Et notamment, on peut faire aussi des réactions en catalyse duale ou des choses comme ça. Mais on peut le voir aussi sous un aspect, on va dire, de réactivité biologique. Il y a de nombreux processus biologiques qui impliquent des radicaux. Que ce soit notamment tout ce qui concerne le vieillissement, dégradation des protéines, des acides nucléiques, les lipides, les oxydations des lipides, hein, le ranciment des lipides ou des choses comme ça, ça fait appel à des mécanismes radicalaires. Donc avoir des notions dans ce domaine est particulièrement important. Et puis il y a aussi, donc c'est tout ce qu'oxydation, c'est aussi l'irradiation, le vieillissement des tissus. On a aussi un certain nombre de réactions qui impliquent des radicaux C-centrés, généralement sur par exemple des aminoacides, le radical glycyle ou des choses comme ça. Et donc ça, on va un petit peu comprendre comment ça se passe. Alors dans le domaine des material science, vous pouvez le voir sous différents aspects. Il y a évidemment la polymérisation radicalaire. 50% de toute la polymérisation, c'est un chiffre qui est peut-être sous-estimé. Ce qui est clair, c'est qu'elle est de plus en plus contrôlée, cette polymérisation, que ce soit par différents types de processus, ATRP, Atom Transfer Radical Polymerization, le RAF, donc c'est Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer, ou les NMP, on utilise dans ce cas-là des nitroxides. Donc cette polymérisation, on aura une conférence sur la polymérisation au moment du symposium, au mois de mai. On peut aussi modifier les surfaces en utilisant des radicaux. Ça, on prend des diazoniums par exemple, on les réduit, c'est quelque chose qui est quand même très très utilisé. Et puis de plus en plus pour l'information moléculaire, molecular electronics, et aussi pour les redox, les organic redox batteries. Donc les radicaux deviennent de plus importants, et vous allez voir d'ailleurs à la fin de ce cours quelques papiers qui donnent des guidelines pour faire du design de radicaux très stables, parce que là, on va plutôt généralement utiliser des radicaux stables, alors que la réactivité, elle, qui, on va dire, de synthèse, elle repose plutôt sur des radicaux peu stables. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe dans le milieu interstellaire, parce que c'est beaucoup des processus radicalaires, parce que tout simplement, il y a des rayonnements très forts, des rayonnements UV très forts, et donc ça promeut les espèces radicalaires. Alors, on va parler un petit peu d'histoire de la chimie radicalaire. Et globalement, la genèse des choses. Alors, il y a un article qui est très intéressant, qu'on peut d'ailleurs trouver en ligne assez facilement, la partie d'Well, qui reprend cette histoire. Et finalement, l'histoire, c'est toujours fascinant quand vous attaquez un domaine, quel qu'il soit, c'est de regarder l'histoire, c'est de voir ce qui finalement... Il y a eu des grandes découvertes qui tombent un petit peu dans l'oubli, parce que peut-être qu'elles n'étaient pas assez bien rationalisées, parce que les modes opératoires avaient l'air un peu compliqués, mais on se rend compte que finalement, et notamment au XIXe siècle, un nombre de choses qui ont été découvertes est extrêmement important. Et par exemple, 1848, donc vraiment milieu du 19e siècle, une des premières réactions radicalaires, dont on reparle d'ailleurs beaucoup en ce moment, c'est l'électrolyse de Kolb, qui est la simple décarboxylation d'un acide carboxylique, c'est-à-dire qu'on part d'un carboxylate, comme ça, et en fait on va l'oxyder, et donc on forme de façon, on va dire, transiente un radical comme ça, qui va perdre son CO2, et on va engendrer ce radical. Et là, le radical, dans le cas de la réaction de Kolb, dimérise, forme le dérivé RR. Donc c'est évidemment, synthétiquement, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, le principe de décarboxyler un acide carboxylique, un carboxylate, ça, vous allez voir, c'est devenu maintenant une génération de radicaux très, très classique. Donc Kolb, c'est aussi ce qui est incroyable dans le cas de Kolb, c'est d'avoir utilisé l'électricité. Parce que l'électricité, tout ce qui était, on va dire, l'utilisation électrique était quand même très, très limitée au XIXe siècle. Et l'idée de la transposer à la réactivité chimique est assez incroyable. Donc, si vous allez voir ces articles, on peut trouver, vous verrez leur titre, c'est assez marrant. Donc, ils parlent de courant électrique. Donc, c'est quand même des travaux importants. Donc, Kolb, j'en ai parlé dans ma leçon inaugurale aussi. Hein, c'est celui qui a fait l'acide acétique à partir du carbone et du soufre. Donc, finalement, c'est quand même un grand chimiste. Et donc, là, il y a bien des radicaux. On va revenir sur le problème du terme radical, d'ailleurs. L'autre découverte intéressante, c'est Frank Land, juste au même moment, qui lui va faire agir des dérivés iodés avec du zinc métal. Donc, vous avez l'intuition que zinc métal, évidemment, va être réducteur et va réduire votre iodo-éthane. Et il obtient du dit éthylzinc et ce éthylzinc iodure. Donc pareil, c'est un papier relativement facile à trouver et qui a été analysé. Alors là, si vous voulez, toute l'analyse des travaux de Frank Land, je vous conseille, c'était dans Organometallics de Zeffert, qui vraiment repositionne complètement cette chimie. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, ni Kolb, ni Frank Land ont la moindre idée des espèces qu'ils engendrent. Hein. Et quand les deux vont parler de radical, mais non pas dans le sens où nous, on voit une espèce clairement identifiée avec un électron célibataire. Eux, pour eux, un radical, c'est le nom d'un groupe fonctionnel qui ne subit pas de modification dans une transformation chimique. Donc, par exemple, vous avez un... on emploie encore le terme radical aussi dans ce sens-là. Par exemple, un radical éthyle sur une molécule, vous avez une éthylcétone et, par exemple, vous réduisez votre cétone en alcool, mais le radical éthyle, lui, n'a pas bougé. Donc, le terme radical, finalement, chimie radicalaire, une espèce radicalaire, vient de cette idée de radical, c'est un fragment qui n'a pas bougé. Et donc, eux, toute cette chimie du 19e siècle a été motivée par cette histoire de trouver des réactions, des transformations où les radicaux sont conservés d'une réaction à l'autre, mais sans penser à des intermédiaires proprement dit radicalaires. Donc, voici une partie de l'histoire. Donc là, on est encore du 19e siècle, donc il y a encore un petit peu de chemin. Si vous regardez ces articles aussi, vous verrez que la façon dont ils analysent leurs produits chimiques est assez incroyable. C'est souvent par évidemment des analyses de masse, de combustion, des comparaisons avec d'autres composés, des dégradations avec de l'acide nitrique, des choses comme ça. Et notamment l'article qui est particulièrement intéressant de lire. D'ailleurs, là, j'étais trop vite. Voilà. C'est celui de l'isolement du radical de Gomberg, donc le radical triphénylméthyle, qui est ce radical. Alors, cet article donc, dans le JAX 1900, ce que voulait faire en fait Gomberg, c'est qu'il voulait faire le dimère. Il avait fait ce composé là, donc le tétraphényléthane, et il voulait faire l'hexaphényle. Donc il est parti du même type de réactivité, c'est-à-dire prendre un dérivé halogéné, mettre une source métallique, et au lieu d'obtenir cet hexaphényléthane, il a obtenu quelque chose qui l'a beaucoup intrigué. Alors, il a observé qu'il y avait un précipité de chlorure d'argent, qui avait bien un fragment organique qui se formait, mais qui ne correspondait pas du tout à l'hexaphényléthane en termes de structure, parce qu'il avait des façons de l'analyser, mais un fragment qui était trivalent sur le carbone et qui, donc, comme vous le voyez, le titre de son article, Trivalent Carbon, et donc il a une bonne intuition de ce qui se passe, sans avoir écrit encore ce point à l'époque, mais donc il a isolé ce fragment. Alors ce fragment, en fait, ne se dimérise pas, ou du moins il ne se dimérise pas en hexaphényl éthane, mais par contre, il est en équilibre, dans certaines conditions, avec ce dérivé-là, qui est une démérisation, non pas donc par les deux carbones portant les phényls, mais par une structure limite ici, donc pour obtenir ce produit. Et il a fallu attendre, vous voyez, plus de 70 ans après, pour l'identification correcte du dimère de ce radical. Ce qui est un peu ce qu'on peut comprendre malgré tout, parce que les signaux RMN finalement ne sont pas si simples, il y avait une ambiguïté. Donc ce radical peut dimériser et selon les conditions va se retrouver sous cette forme de dimère. Mais surtout aussi, ce qu'il a montré, c'est qu'il pouvait réagir par exemple avec l'oxygène, et donc il a isolé par contre ce peroxyde qui vient de la réactivité du radical avec du dioxygène. Le dioxygène étant lui-même un diradical, donc il a pu isoler ce peroxyde et donc c'est clairement indiqué. Donc là, il décrit son travail. Et donc, vous voyez, il parle du free radical, triphényylméthine. Voilà, il l'écrit comme ça, avec une triple liaison et trois aromatiques. Bon, donc globalement, pas une vraie idée du bonding. Mais par contre, l'idée vraiment de ce carbone avec trois phényls autour. Le radical est stable. Il peut être conservé en solution, en façon cristalline. Il ne réagit pas avec d'autres, et ainsi de suite. Et donc, comme je l'ai déjà dit, il a voulu être très très protecteur sur cette recherche, ce qui est généralement c'est assez bizarre, parce que ce que vous voulez plutôt, c'est que les gens se jettent sur vos travaux, mais lui, bon, visiblement non, mais bon, de toute façon, vous allez voir que la suite de l'histoire a montré que la découverte était suffisamment importante pour être poursuivie par d'autres. Toutefois, il n'a pas eu le prix Nobel. Ça aurait pu, mais il ne l'a pas eu. Ce qui montre aussi quand même, malgré tout, que c'était une chimie qui était peut-être un petit peu, qui est restée un petit peu marginale pendant longtemps. Alors, celui-là, il est stable, mais il y a aussi des radicaux qui ne sont pas du tout stables, et on va revenir dessus. Et la première mise en évidence d'un radical a priori pas stable, c'est le radical méthyle. Donc ça, c'est pas net, qui a pris du tétraméthylplomb, donc un réactif certainement assez toxique. On le chauffe sous vide et il libère un beau miroir de plomb et quatre radicaux méthyle. D'accord ? Et si, en fin de votre dispositif expérimental, vous avez du plomb, un miroir de plomb, eh ben, les radicaux méthyle qui vont passer dessus vont reformer le tétraméthylplomb, et donc du coup, vous voyez votre miroir disparaître. Donc, Panet en a déduit qu'il formait donc une espèce, on va dire, volante de méthyle, et tout ce qui ressemblait réellement à un radical méthyle. Et puis certainement, l'expérience phare, c'est l'expérience de Karasch. Alors Karasch, il a fait beaucoup, beaucoup de réactions radicalaires différentes. D'ailleurs, on en verra d'autres, notamment les transferts d'atomes. Mais celle qui est très connue, évidemment, c'est sa addition de HBr sur les alcènes avec une régiosélectivité différente. On reviendra un petit peu sur le mécanisme, parce que c'est une réaction en chaîne. Et les réactions en chaîne seront dans le troisième cours, principalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc en présence de ce peroxyde, on arrive complètement à changer le mécanisme et à changer aussi le type d'intermédiaire qui est impliqué. Ici, on avait un carbocation, produit Markovnikov classique. Donc on protonne d'abord la double liaison, puis on forme un carbocation qui est piégé par le bromure. Alors qu'ici, la différence, c'est que c'est un Br point qui attaque l'alcène et on forme ce radical intermédiaire qui, lui, va être hydrogéné. Le nombre d'articles de Karasch sur cette chimie est très conséquent. C'est une bibliographie qui est assez volumineuse et qui n'est pas forcément toujours très facile à extraire vraiment les résultats importants, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tableaux. Un de ses collaborateurs, Mayo, par exemple, va être lui très, très connu, va être un des grands artisans de la chimie des polymères des années 40. Alors, donc ensuite, on va monter encore un petit peu dans le temps. Et on va avoir la bromination allylique, qui est une synthèse, enfin qui est très utilisée en synthèse. Hein. Vous avez un composé allylique, vous voulez introduire un brome. Vous allez utiliser cette réaction avec du NBS. On va revenir un petit peu dessus dans le prochain cours pour son mécanisme, parce que c'est aussi une réaction en chaîne. Découverte de l'RPE, très importante parce que c'est elle qui permet d'analyser finement les radicaux et elle permet d'analyser. Alors, l'RPE, elle est utilisée pour détecter un radical, mais aussi grâce au couplage ou couplage hyper fin de déterminer les conformations des radicaux, leur environnement électronique. Donc, c'est une technique, c'est l'équivalent de l'ARMN. Sauf que c'est un petit peu plus difficile à interpréter. Généralement, vous avez besoin de simuler les spectres et tout. Mais donc, c'était découvert par un physicien à l'époque en URSS, donc en 1944. Donc, ça, je vous l'ai dit aussi, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'équivalent d'un projet Manhattan, mais là, réduit au synthetic rubber, parce qu'il y avait un vrai problème d'approvisionnement en caoutchouc, donc, d'où l'idée de démarrer de la polymérisation pour faire du latex, des caoutchoucs synthétiques. Et puis, donc, dans les années 60, on va dire, en vol d'abord chimie physique organique, où on étudie les structures par RPE, les cinétiques des réactions avec ses contributeurs. Alors, Ingold, c'est pas celui du Kahn Ingold Prelog, mais c'est son fils, Keith Ingold, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, mais qui a été un nombre. Enfin, si vous commencez à taper Keith Ingold, vous allez voir le nombre de papiers et surtout le nombre de mécanismes et d'études qu'il a pu faire. Et puis, il y a aussi des réactions radicalaires. Julia, donc, qui était ici à Paris, Marc Julia, Surzur, un de ses élèves, Barton, qui a été lui aussi, qui a fondé réellement une autre école très importante. Dans les années 60, 70 et encore plus tard. Les premières synthèses totales de produits naturels par Stork, Curran a eu cette réaction emblématique de l'hirsutène sur laquelle on reviendra. Les réactions radicalaires asymétriques dans les années 90, qui correspond aussi au livre qu'on a vu tout à l'heure. Les cascades radicalaires, bon, j'ai donné des noms, on pourrait en donner beaucoup d'autres, mais donc ça c'est aussi quand même un développement majeur, parce que c'est certainement ce qui a popularisé beaucoup la chimie radicalaire, c'est de voir qu'on pouvait faire de la chimie complexe avec ses dérivés, parce que jusqu'à présent, une bonne partie de ces réactions étaient quand même restées relativement encore simple en termes de portée synthétique, même si déjà il y avait des choses très intéressantes. Et puis donc le tournant des années 2000 où globalement des nouvelles façons d'engendrer des radicaux, mais vraiment très différentes, vont apparaître et principalement par du SET, donc Single Electron Transfer. Donc ça c'est c'est ce qui va vraiment changer beaucoup la scène. Le SET était connu, hein, Kolb, par certains côtés c'est un SET évidemment, mais là ça va être la généralisation du SET, soit en utilisant des dérivés organiques, soit en utilisant de la catalyse organométallique avec le titane ici pour Gansauer, ici différents types de réactifs, on reviendra dessus. Et puis la photorédox dont je vais parler jeudi avec 2008 l'article en Science de Macmillan et Nisewitz et puis d'autres papiers et puis maintenant donc clairement une grosse contribution. Alors l'intérêt pour la chimie radicalaire le nombre de, on va dire, de personnes impliquées, de players a beaucoup augmenté. Ici, Baran, en 2016, propose une revue assez synthétique dans le JAX, mais qui est intéressante à regarder. Il a notamment compilé cette histoire des transformations chimiques assez intéressante. Donc, c'est sa vision de la discipline. Mais elle est quand même. C'est une revue qui mérite d'être lue et où il y a déjà une bonne synthèse et des grandes transformations. Vous avez parlé de l'hirsutène de Curran que voici. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle les milestones d'un certain nombre de choses. Donc voilà, donc ça c'est. Vous pouvez regarder ça. J'étais en train de penser d'ailleurs qu'il y a une slide que j'ai passée tout à l'heure, dont je n'ai pas parlé.
Oui, en fait, celle-là, je n'en ai pas du tout discuté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce cours ne va pas, en fait, beaucoup s'apesantir sur ces ROS, parce que la chimie radicalaire, souvent, est associée à toutes ces reactive organic species, oxygen species, qui sont les sources de dégradation biologique, et ainsi de suite. Et là, vous trouvez beaucoup de choses. D'ailleurs, généralement, quand vous tapez radicaux ou radicaux libres, vous allez arriver beaucoup là-dessus. Mais ce n'est pas du tout l'objet de ce cours, même si on va voir un petit peu des radicaux oxygénés, les radicaux hydroxyles, mais globalement, c'est très intéressant, mais c'est, en tout cas, ça ne sera pas cette année au programme. Donc, je reviens sur une chose qui est importante, c'est maintenant, quel est notre domaine réellement d'études ici. Et donc, on va s'intéresser à différents types de radicaux, et notamment, on va déjà les distinguer selon leur durée de vie. Et donc, globalement, on a des radicaux, on va dire, dits transients, dont la demi-vie est relativement courte. Et globalement, c'est principalement ceux qui vont nous intéresser. Après, il y a des radicaux persistants. Alors, on va faire la différence entre persistants et stables. Donc, persistants, ça sera ceux dont la demi-vie, globalement, sera supérieure à 10-3 secondes. Donc, 10-3 secondes, c'est quand même pas beaucoup. Donc, le domaine de la chimie radicalaire synthétique est principalement des radicaux inférieurs à 10-3 secondes. Donc, vous voyez qu'on est dans des processus qui sont vraiment très, très rapides. Ces persistants, ces radicaux persistants sont principalement dus à une stabilité cinétique et généralement avec de l'encombrement stérique. Et on va définir aussi une catégorie de radicaux dits stables, et stable voulant dire, donc ça c'est Ingold dans cet article qu'il définit, hein. Donc cette classification vient de cet article-là d'Ingold. Ça va être les radicaux type Gomberg, c'est-à-dire que ceux qu'on peut vraiment, on va dire, mettre dans un ballon et exposer à pas mal de conditions, lumière et autres, et qui restent stables pendant des années. D'accord ? Donc, il y en a un certain nombre. Comme je vous dis, ils retrouvent un intérêt important pour des développements matériaux, mais donc c'est vraiment radicaux qui peuvent être manipulés et stockés dans le labo avec pas de précautions particulières. Donc, revenons sur les radicaux non stables. Si vous les engendrez, ils vont avoir tendance à donc réagir très très vite. Et leur façon de réagir très très vite, ça va être principalement de dimériser, c'est ce qu'on a montré ici. Hein, vous allez former le dimère, boum. Donc ça, c'est des cinétiques très très importantes, à la limite de la diffusion hein, de votre solvant. Vous avez aussi ce qu'on appelle la dismutation, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, un des radicaux ici, globalement, vous avez un radical comme ça qui va rencontrer qui va réagir avec un autre. Donc, par exemple, imaginez ici, vous avez si on a un hydrogène, on va prendre le radical éthyle, ça sera plus simple. Ou on peut mettre un carbone ici, peu importe. Et donc, on a le même radical. Et donc, ce radical, imaginons que ici on a une chaîne carbonée. Peut réagir avec. Et donc globalement, ici, lui va prendre cet hydrogène. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là qu'il prend. Hop. Il va prendre celui-là. Et donc à la fin, ça vous donne ce produit réduit, plus ici l'équivalent du diradical, formellement, hein, ce qui correspond à la double liaison, d'accord ? Donc c'est ça, cette dismutation. Et cette dismutation, c'est quelque chose que l'on observe beaucoup dans les réactions de polymérisation, c'est une façon de terminer aussi les réactions de polymérisation. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait également très vite. Et donc, globalement, synthétiquement, à partir du moment où ça vous donne deux produits, c'est pas forcément hyper intéressant. Alors, l'autre activité des radicaux, c'est la réaction avec l'oxygène, on l'a déjà vu, hein, radical triphényléthane, former ce dimère avec le dioxygène. Mais d'une façon générale, oxygéner les radicaux, ça marche très bien. C'est une réaction qui est très très rapide. Ce qui veut dire aussi que c'est un problème, c'est-à-dire que dans beaucoup, si vous voulez faire de la chimie radicalaire, on va dire propre, il vaut mieux éviter la présence d'oxygène. Si vous mettez de l'oxygène délibérément, vous allez oxyder très vite. Si vous avez des traces d'air, attention, vous allez peut-être avoir de l'oxydation, en tout cas qui peut se produire. Et puis, vous avez aussi le problème du solvant. Donc, S, c'est le solvant, et de certains hydrogènes qui peuvent être arrachés. Et notamment, par exemple, un mauvais solvant pour faire de la chimie radicalaire en moyenne. C'est d'une façon générale, c'est tous les solvants éthérés. Il faut mieux éviter parce qu'ils ont des hydrogènes dits labiles. Et donc, vous allez avoir, si par exemple vous avez un radical R et que vous avez du THF, vous avez une possibilité non négligeable d'obtenir ce genre de choses. Donc, et de former votre radical ici sur le THF. Alors, ça va dépendre, on va le voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que ça va dépendre du caractère nucléophile ou électrophile du radical, mais enfin, globalement, c'est un problème. Surtout que le solvant, généralement, il y en a beaucoup, donc vous imaginez que c'est une possibilité. Donc, les beaux solvants pour faire de la chimie radicalaire, ça va être principalement des solvants chlorés, l'acétonitrile, éventuellement le toluène, le DMF. Mais bon, on évite tout ce qui est diéthyléther, THF, dioxane, c'est possible d'éviter. Vous remarquerez, je ne parle pas beaucoup d'eau, parce qu'en fait, l'eau n'est pas particulièrement un problème, contrairement à la chimie organométallique classique, où l'eau va protoner un intermédiaire organométallique. L'eau ici, à partir du moment où vous avez une énergie de liaison ici qui est très élevée, parce que l'énergie de liaison ici, la BDE, BDE c'est Bond Dissociation Energy, elle est supérieure à 100 kcal par mol, donc on est assez à l'abri de l'arrachement d'hydrogène sur l'eau, en tout cas si l'eau n'est pas activée d'une façon ou d'une autre. Donc l'eau, on n'a pas forcément besoin de travailler dans un milieu hyper anhydre. Mais par contre, travailler à l'abri de l'oxygène, c'est fortement conseillé. Alors, les radicaux stables, on va commencer par eux. Il y en a plusieurs types. Vous avez par exemple ce DTPH, diphénylpicrésyl hydrazyl. Et donc c'est des cristaux violets. Pas de précaution particulière. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui va contribuer à ce qu'il est très stable? Il y a évidemment de la délocalisation sur les aromatiques. Il y a aussi quand même un encombrement stérique non négligeable autour de la densité de spin ici. Et donc, ce qui vraiment aide beaucoup la stabilité, puis on va revenir là-dessus. Donc là, il y a une revue récente sur l'utilisation des radicaux stables, notamment principalement dans la chimie des matériaux. Celui qui est assez connu aussi, c'est le galvinoxyl. Donc, c'est le même type de stabilisation, hein. Vous voyez que vous avez un centre ici oxygéné, il est porté par l'oxygène, le radical, mais il peut se délocaliser totalement. Et mine de rien, vous avez quand même ces terbutyles ici qui sont très protecteurs du centre radicalaire. L'autre, une famille particulièrement importante de radicaux stables, c'est tout ce qui est nitroxyde. Et nitroxyde, il y a beaucoup de chimie avec ces composés-là. Donc c'est des radicaux de dérivés. Par exemple, l'archétype du nitroxyde, c'est le tempo. Donc découvert dans les années 60 d'ailleurs par un groupe russe. Et donc ce radical est très stable. Il se trouve que là, on écrit généralement la densité de spin sur l'oxygène, mais en fait elle est partagée entre les deux atomes, hein, azote et oxygène. Et c'est pour ça que parfois, d'abord on peut écrire ces deux structures limites, ça c'est très important, hein, donc ce qui contribue beaucoup à la stabilisation des nitroxydes. Et on peut aussi écrire finalement un radical ici délocalisé sur ces deux atomes. Alors ce qui est très important pour les nitroxydes, il y a donc cette délocalisation, mais il y a aussi un facteur stérique important qui est le suivant, c'est que généralement il vous faut ici que cette position soit quaternaire. Il ne faut pas qu'il y ait d'hydrogène en alpha de l'azote. Pour la raison suivante, c'est que globalement, si vous prenez par exemple un nitroxyde ici, car un hydrogène, on va dire que celui-là, là, c'est quaternaire, peu importe ce qu'il y a ici. Globalement, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez avoir un arrachement d'hydrogène entre deux nitroxydes. Et donc, le radical ici, globalement, va prendre cet atome d'hydrogène. Et donc, vous formez, en fait, c'est une dismutation, comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est strictement la même chose. Hein. Et vous allez former le dérivé hydrogéné, plus, en fait, ce dérivé ici, alors, on peut l'écrire comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, globalement, ici, vous avez le doublé. Et en fait, la meilleure forme, c'est de l'écrire sous la forme nitrone, qui est donc c'est ce qu'on appelle une nitrone. Donc, la plupart de vos nitroxides, ici, vont être toujours un groupement, ici, quaternaire, pour les protéger de cet arrachement, on va dire... entre substrats. Donc, la chimie des nitroxides, vous avez des groupes dans le monde qui travaillent, j'ai envie de dire, que sur ça, sur leur design, parce que le nombre d'applications est vraiment hyper important, que ce soit pour la fonctionnalisation de biomolécules, la polymérisation. Et ce qui est très important, une des grosses applications des nitroxides, c'est que ce sont vraiment des pièges à radicaux. C'est-à-dire que la cinétique du piégeage d'un radical par le nitroxyde est extrêmement rapide. Et la plupart des radicaux vont réagir avec les nitroxydes pour former ce dérivé-là avec une cinétique extrêmement rapide. Donc ça, c'est aussi leur utilisation. Mais ce piégeage peut être rapide, mais réversible. Et ça, c'est l'autre point important. Alors, des radicaux persistants, donc généralement, c'est des radicaux qui vont avoir une stabilité cinétique. Alors, le radical de Gomberg, il est un petit peu entre les deux. Il est persistant et relativement stable, mais comme il y a quand même le dimère qui se forme, on ne considère pas comme le radical stable totalement, dans le sens où il y a cette possibilité de dimérisation. Mais donc, c'est plutôt un radical persistant. Par contre, si vous commencez à mettre des substituants sur le radical de Gomberg, là, vous arrivez à des radicaux parfois très, très, là, du coup, très stables. Ici, ce qu'on voit très bien, c'est le facteur encombrement stérique, parce que, par exemple, un radical vinylique comme celui-ci, les radicaux viniliques, c'est très, 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 évidemment très réactif. Mais dès que vous l'encombrez, vous arrivez quand même à avoir un temps de demi-vie de 6 secondes. Alors, ce n'est pas beaucoup 6 secondes, mais c'est quand même notoire pour calmer certaines réactivités. Celui-ci, dès que vous mettez 2 terbutyl ici sur ce carbone, votre demi-vie ici va être de 50 secondes. Donc, vous voyez, celui-là, c'est pareil, les terbutyl le protègent. Donc là, c'est quelque chose que vous aurez du mal à observer, mais enfin bon, a priori, en RPE, vous pouvez. Mais donc, c'est des radicaux qui évoluent quand même avec le temps. Ici, on a un transfert d'hydrogène intramoléculaire, mais bon. Donc, c'est ce qu'on appelle un radical persistant. Donc, généralement, une intervention stérique qui prévient un certain nombre de cinétiques, donc celle de la dimérisation, celle de l'oxydation, celle de la dismutation. Donc celles et les réactions qu'on a vues tout à l'heure qui se passent sans qu'on les vole. Alors, si on revient maintenant aux radicaux, on va dire ceux qui nous intéressent. Qu'est-ce qui fait est-ce qu'ils sont tous pareils? Donc là, on va arriver sur des... il y a quand même, dans les radicaux non stables, il y a une certaine échelle de stabilisation. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui va contribuer un radical à être particulièrement plus stable qu'un autre dans ce domaine? Par exemple, la conjugaison. Un radical allyle ici, où il y a une certaine délocalisation, va apporter une stabilité. Et effectivement, un radical benzyle ou allyle a souvent une réactivité différente des autres radicaux alkyles, notamment les radicaux benzyliques dimérissent très facilement. Donc ça, c'est important. Et c'est principalement dû à cette délocalisation. Alors, vous allez voir, je vous donne la, la, la vision très très classique, vous allez retrouver dans la plupart des livres. Et on va avoir aussi cette échelle en disant qu'un radical tertiaire est beaucoup plus stable qu'un radical secondaire, qui est lui-même plus stable qu'un radical primaire, qui est plus stable que le radical méthyle. Et l'idée, évidemment, l'analogie, ça fait tout de suite penser à l'échelle de stabilisation des carbocations. Et le raisonnement sous-jacent à ça, évidemment, c'est qu'un radical va être stabilisé de la même façon qu'un carbocation, puisqu'il a cet électron déficient. Et puis, de toute façon, on peut utiliser l'hyperconjugaison pour justifier ça. Donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, en fait, justifier. Vous avez une interaction de ce type-là. Vous avez globalement un centre radicalaire ici, donc avec un électron. Et puis de l'autre côté, vous avez une liaison avec deux électrons, type une liaison CH. Et globalement, vous allez bâtir une... Ça va être l'orbitale la plus haute du radical. Donc c'est ce qu'on va appeler la SOMO. On va revenir sur ce terme-là plusieurs fois. Donc c'est single occupal. Et puis donc vous avez donc une liaison sigma CH classique. Hein. Donc là, ça c'est la HOMO, donc c'est la highest occupied molecular orbital. Et donc interaction avec trois électrons, vous stabilisez par cette interaction. Et pour qu'elle ait lieu, cette interaction, généralement, il vous faut un phénomène important, donc il vous faut que votre CH ici soit donc coplanaire avec la SOMO. D'accord ? Il faut que ce soit, vous ayez un arrangement ici coplanaire pour avoir le recouvrement maximum. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est l'analogie, c'est vraiment l'hyperconjugaison basique. Et donc, quand vous avez un radical substitué, il pourra faire cette hyperconjugaison dans des CH ou dans des CC et avoir cette stabilisation par des liaisons sigma riches en électrons. Et plus vous en avez, potentiellement, plus votre radical est stabilisé. Donc, c'est un mécanisme, on va dire, c'est une façon de penser qui est intéressante. Vous allez voir que je vais vous présenter un article qui remet en cause pas mal ce modèle. Ici, là aussi, de façon très classique, on va classer les radicaux, leur stabilisation, par la BDE d'arrachement de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'en fait, les valeurs qui sont ici, c'est la BDE RH, c'est-à-dire c'est vraiment l'énergie à fournir. Donc c'est vraiment l'énergie à fournir pour former le radical et le H point, donc c'est bond dissociation energy. Et ces valeurs, comme vous le voyez, elles ont quand même une amplitude assez importante, 85 kcal par mol pour le radical benzylique, puis allylique, un tertiaire, un secondaire, primaire, méthyle, vinyle, alcinyle, on reviendra un petit peu sur ce radical parce que celui-là, est-ce qu'il existe vraiment ? Ce qui est important aussi, c'est que vous voyez les radicaux oxygénés, ça revient au problème de l'eau, hein, arracher un hydrogène sur un hydrogène sur un oxygène, c'est compliqué. Ces valeurs sont exactes et on a dit, ça marche bien parce que justement, les radicaux qui sont formés sont stabilisés. On a aussi des stabilisations par mésomérie, que ce soit par effet donneur ou accepteur. Donc, le cas classique, puis accepteur, au final, vous avez par exemple un radical ici en alpha d'un carbonyle, et vous allez pouvoir écrire cette structure limite qui contribue à stabiliser votre radical, ça d'accord, c'est un peu comme ce qu'on écrirait pour un énolate. Ou vous avez aussi un radical, par exemple, qui est en alpha d'un oxygène, et vous pouvez écrire cette structure ici, qui fait apparaître une charge moins ici, un radical cation ici, et ainsi de suite. Donc, et puis si vous conjuguez les deux, vous avez ce qu'on appelle un effet captodatif, c'est-à-dire que vous avez à la fois un pi donneur et un pi accepteur, et vous avez un radical dit captodatif, particulièrement stabilisé. L'exemple classique, c'est le radical glycyl, hein, où on a arraché l'hydrogène ici, et vous voyez que ça baisse quand même de façon très sensible l'énergie de liaison hydrogène ici, 78 kcal par mol, donc c'est inférieur à radical benzylique. Donc ça c'est on va dire les facteurs contributifs pour la stabilisation. Alors on a basé sur ce schéma des BDE, il a même été proposé de proposer ce qu'on appelle une RSE, donc une Radical Stabilization Energy, et donc globalement on regarde cette Radical Stabilization Energy, regarde la BDE entre le méthane et votre alcane, ou votre dérivé RH. Et donc ce que vous voyez, c'est que bon, bah, pour le méthane c'est zéro. Dès que vous êtes en négatif, ça veut dire que là vous allez avoir des composés où l'arrachement de l'hydrogène va être particulièrement difficile. Alors ce qu'on peut regarder de ces valeurs, c'est qu'effectivement on confirme qu'avec la substitution, l'arrachement de l'hydrogène est généralement plus facile. Les BDE ici sont faibles. Ce qui est important aussi, c'est donc on voit effiler des hétéroatomes. Vous voyez que par exemple, par contre, sur des cycles comme ce cyclopropane, arracher un hydrogène va être particulièrement compliqué parce qu'on a un fort caractère sp2, hein, on se retrouve presque dans un système vinylique. Sur un cyclobutane, c'est pas si facile que ça non plus. Et il y a deux valeurs qui sont intéressantes, c'est de comparer sur le méthanol, puisque vous avez deux hydrogènes. Et donc celui qui est facile à arracher, c'est lui. Et celui qui est dur à arracher, ben en fait, c'est lui. Et donc, c'est d'où les deux valeurs différentes, 104 et 94. Où vous voyez quand même, il y a 10 kcal de différence, parce que lui bénéficie de l'effet donneur du OH, donc il y a une certaine stabilisation par mésomérie, alors qu'ici, vous allez engendrer un haut point, et les hauts points, eux, sont difficiles à engendrer. Donc, et souvent, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on voit le méthanol, on se dit toujours, ah bah, l'hydrogène qui va partir dans un processus radicalaire, c'est celui de sur l'oxygène. Et en fait, non, c'est pas le cas du tout. C'est celui qui va vraiment partir sur le méthyle. Alors, vous voyez que le phénol, typiquement, lui, est dans un cas particulier, parce que là, du coup, on tombe sur un radical qui est stabilisé donc, par mésomérie. Et donc là, on peut écrire toutes ces formes-là, et ainsi de suite. Hein. Donc ça stabilise. Et en fait, ces phénols, si on les habille bien, peuvent même devenir des antioxydants. Hein. Donc il y a beaucoup de phénols. Donc, quand on vous dit, dans le vin rouge, il y a des antioxydants type phénolique, c'est basé sur ce genre d'arrachement d'hydrogène et d'engendrer un radical sur un noyau phénate et qui est particulièrement délocalisé. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore de cette courbe? Le cyclohexadiène, vous voyez, qui est fortement activé, qui va être quand même un donneur d'hydrogène assez conséquent et qu'on voit dans certaines réactions. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, cette RSE, vous allez voir, on va revenir là-dessus. Il y a quelques soucis. Alors, il y a plusieurs soucis, déjà, c'est... Il y a eu même ceux qui l'ont utilisé ont dit, bon, alors déjà le problème, c'est que c'est un traitement superficiel parce qu'on se base uniquement sur l'arrachement d'un hydrogène, sur des dérivés carbonés. Et en plus, les effets des hétéroatomes ne sont pas toujours très bien pris en compte. Donc, Zipse, typiquement en 2010, lui a sorti un article où il recompile pas mal de BDE. Et notamment, il regarde aussi les BDE des composés RXH en prenant comme référence le radical hydroxy et ce radical SH point. Et après, il corrèle un petit peu les données parce qu'en fait, toutes les BDE, là, pour la RSE, en tout cas, le radical de référence, c'est le radical méthyl. Donc là, il fallait trouver aussi une référence pour les radicaux RX point. Et donc, il va prendre le OH point, le SH point, et il va dégager des tendances. Mais malgré tout, il y a d'autres soucis. Dans certains cas, donc ça, c'est les travaux de Michel Coutte, qui va donner un séminaire, elle aussi, au prochain symposium. Là, il y a des problèmes parfois stériques avec les BDE. Donc, elle a proposé une autre échelle, c'est qu'on va comparer les énergies de scission du groupement RR avec par exemple l'éthane, ou même, parce que là il peut y avoir parfois des conjugaisons qui sont problématiques, ou par exemple la scission du radical éthane par rapport aux dérivés substitués ici. Donc on va regarder les différentes BDE. Donc ça, c'est des traitements, il y a beaucoup de compilations, ça bourdonne des choses, mais bon, globalement, ça reste un chantier un petit peu non fini. Alors, ce qu'a proposé lui Bickelhaupt, c'est qu'en fait, et c'est là qu'il va casser un peu c'est un article qui est récent, c'est que contrairement au dogme, ce qu'il dit, c'est que lui, quand on rajoute des méthyles, sur un radical ou d'une façon générale, ça ne le stabilise pas. En fait, ce qui est clair, c'est que quand on rajoute des méthyles sur un dérivé organique, la BDE va décroître. C'est-à-dire la liaison, en gros, sur un dérivé où vous rajoutez beaucoup de substitutions ici, si vous substituez vos hydrogènes, typiquement, si on prend un cas comme ça, on va donc si vous comparez, on va prendre le cas extrême, méthane par exemple à celui-là, ces calculs confirment qu'évidemment l'énergie de liaison ici, cette BDE ici, on va l'appeler 1, et, ici on va l'appeler 2, ils confirment que cette carbone hydrogène est beaucoup plus facile, l'énergie de liaison est plus basse. Mais ce n'est pas un problème de stabilité du radical, en fait c'est toute la confusion de la RSE. Ce n'est pas dû au fait que il y a le radical qui en découle est plus stable, c'est dû au fait qu'ici, globalement, vos méthyles ici exercent un encombrement stérique tel que globalement ça affaiblit cette liaison carbone-hydrogène. Plus il y a de méthyles, en fait, plus votre système est déstabilisé et plus il va en fait céder facilement cet hydrogène, alors que dans le méthane, ici vous êtes dégagé de ce problème. Et donc d'une façon générale, les liaisons carbone-méthyle, de toute façon, elles vont être moins énergétiques que les carbone-hydrogène. Et donc globalement, votre substrat ici est globalement déstabilisé par cette introduction de groupements carbonés. Donc lui, il remet complètement en cause les histoires des RSE. Ce qu'il faut garder des slides précédentes, c'est que les énergies de liaison carbone-hydrogène sont vraies, mais pas basées sur la stabilité du radical, uniquement sur un phénomène d'accessibilité de l'hydrogène. Donc ça, c'est assez intéressant comme point de vue, c'est récent. Et donc, se pose la question, par exemple, le radical méthyle, finalement, qu'on voit toujours comme un radical très, très instable, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, selon lui, ses calculs, le radical méthyle, globalement, n'est pas particulièrement instable. Simplement cinétiquement, évidemment, il est très réactif, et donc c'est pour ça qu'on confond un petit peu ce phénomène. L'autre point aussi, ce qui montre, c'est que c'est des calculs. Hein, ce qu'il dit, c'est que l'hyperconjugaison, par exemple, typiquement pour les radicaux, les stabilisations par hyperconjugaison sont dérisoires. Donc ce que je vous ai écrit, le schéma ici, je vous ai écrit typiquement. Lui, il le trouve négligeable en termes de stabilisation. Donc, à retenir, ces énergies de liaison hydrogène, carbone-hydrogène sont importantes. Elles sont importantes parce que, globalement, elles nous emmènent à la réactivité qu'on va voir au cours prochain. Elles vont être importantes pour les réactions de ce qu'on appelle de transfert d'hydrogène. Et comme vous le savez, les réactions de transfert d'hydrogène, c'est quoi? C'est simplement de la fonctionnalisation CH. D'accord? Donc, on va arracher l'atome d'hydrogène, on va faire un radical. Donc, avoir une bonne idée des liaisons carbone-hydrogène, c'est bien. Raisonner sur la stabilité des radicaux, c'est un autre problème. Alors, il y a un autre article intéressant qui est sorti juste un petit peu avant celui de Bickelhaupt. Alors, Bickelhaupt a fait aussi un article sur les radicaux captodatifs. Donc, c'est quelqu'un qui publie pas mal sur ces domaines et qui casse un petit peu les dogmes. Alors, celui-là, il est intéressant aussi. Donc, c'est aussi un papier de chimie théorique. Et qui lui donne, on va dire, des guidelines pour trouver des radicaux stables. Mais on peut aussi l'utiliser, ce qu'il propose, pour les radicaux, on va dire, réactifs. Et donc lui, il définit une échelle qui va appeler la Radical Stability Score, donc là c'est pareil, il se débarrasse du terme RSE, qui comprend deux facteurs. Tout d'abord, un facteur thermodynamique de stabilisation et un facteur de persistance cinétique, hein, puisqu'on a vu que la persistance c'est un facteur cinétique. Et donc il associe les deux et il va attribuer ça, ou il prend les deux termes, en gros 50-50, avec le V-bur, lequel je vais revenir, et le maximum de spin, de density. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un radical, on va prendre un radical, on va déjà terminer, on va vérifier le premier terme, la stabilisation thermodynamique. C'est, pour lui, c'est lié à cette maximal fractional spin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, sur le radical méthyle, vous n'avez pas de délocalisation de votre radical. Le spin, il est à 100% sur l'atome de carbone. À l'autre extrême, dans le cas du radical benzylique, votre radical, il est complètement délocalisé sur tout le noyau aromatique. D'accord ? Et il y a le maximum de spin sur un des carbones, qui doit être celui-ci, va être uniquement de 0,39. Okay ? Sinon, ça veut dire que vous avez 100% de densité de spin réparti, mais le maximum va être de 0,39 sur ce carbone. Ici, quand vous mettez un méthoxy, vous avez un peu de délocalisation, vous avez encore 90% de la densité de spin sur ce méthylène. Et dans le radical allyle, c'est bien délocalisé, le maximum c'est 0,42. Okay ? Plus ce chiffre est bas, plus votre radical, on va dire, est stabilisé. Parce que ça veut dire que votre densité de spin est très très délocalisée. Okay ? Donc ça veut dire que dans cette équation, il y a un moins, donc vous allez faire 1 moins votre maximum de spin, donc plus cette valeur est basse, donc évidemment plus 1 moins va être grand, et donc plus ça va contribuer sur le facteur, on va dire, thermodynamique, ok? Donc là, il y a un moins. Ça, c'est le premier aspect. Et il y a l'aspect persistance, c'est-à-dire le buried volume. Alors, le buried volume, problème, vous en avez peut-être entendu parler, c'est beaucoup utilisé pour les ligands. On a aussi toujours ce problème de définir sur un ligand, sur un métal, quel est son volume réel de protection du métal, quel genre de sélectivité il peut amener par son encombrement stérique. Et ça a été défini par Nolan. C'est un calcul. Alors, le calcul du buried volume, c'est en fait, on prend une sphère. Donc là, en fait, ce qu'ils prennent, c'est ils prennent une sphère autour du maximum de densité de spin. Ils définissent un rayon et ils regardent combien il y a de pourcents du substrat, enfin du radical, qui est dans cette sphère. Okay ? Donc, plus ce pourcentage est important, plus ça veut dire finalement qu'il y a du dans l'encombrement stérique autour du radical. D'accord ? Donc ce buried volume est une bonne indication de l'encombrement stérique autour du radical. Donc plus votre buried volume est grand, plus votre densité de spin est petite, plus votre radical stability score va être important. Et donc il va définir des régions ici où globalement, on voit ici, donc pour se mettre dans la région où vous voulez des radicaux stables, il faut que votre spin density soit la plus petite possible. Donc ça sera plutôt ici à gauche. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est des buried volumes, eux, au contraire, les plus grands possibles. D'accord ? Et donc vous arrivez à des radicaux ici, dans cette zone-là, les radicaux particulièrement stables. Et donc, à contrario, le radical méthyle, lui, a tout faux, puisque le buried volume, il est tout petit. Et la spin density, elle est très faible. Et ainsi de suite, ici. Donc, vous voyez, même le radical tiers-butyl, typiquement, a globalement un buried volume. Bon, certes, non négligeable, mais par contre, au niveau de spin density, il n'est pas extraordinaire, quoi. Donc, cet article corrèle un petit peu, va un petit peu dans le sens de l'autre, c'est-à-dire que finalement, cette RSE qu'on a eue initialement était assez trompeuse, et qu'il faut regarder, regarder autrement les phénomènes de stabilisation des radicaux. Donc, et ça c'est bien si vous voulez aussi faire du design d'un radical particulièrement stable, vous allez pouvoir, vous savez ce qu'il faut faire, donc il faut une délocalisation réellement maximum du radical et assurer ce volume C'est un gros encombrement autour de votre centre où la densité de spin reste malgré tout la plus élevée. Alors l'autre question qui est importante aussi quand on fait de la chimie radicalaire, c'est finalement leur structure. Parce que pour l'instant, on a parlé beaucoup de leur stabilisation, mais quelle est la structure d'un radical? En fait, le radical méthyle est plan. Hein, souvent, c'est des plans. Quand vous mettez des groupements alkyles ou des hétéroatomes, globalement, vous pouvez avoir un peu de pimérinylisation, mais c'est surtout vous avez une barrière d'inversion très rapide, comme une amine, par exemple. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous avez un centre homochiral, ça veut dire qu'il va se perdre. D'accord ? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. D'ailleurs, c'est une bonne indication que vous passez par un radical, c'est que typiquement, si vous avez un centre homochiral, évidemment, si à la fin, vous avez perdu cette homochiralité, ça veut dire que la probabilité que vous soyez passé par un intermédiaire radicalaire est conséquente. Et ce qui va conduire à la pyramidalisation, c'est par exemple, si vous prenez le radical ici avec des fluores, plus vous en rajoutez, plus c'est pyramidal. Alors, ça reste quand même un angle assez modéré. Et ça, c'est dû au fait que le fluor, évidemment, la carbone fluor n'est pas très longue. Et par ailleurs, il y avait tous ces doublés sur le fluor. Donc là, vous allez en fait minimiser la répulsion électronique entre les doublés du fluor et donc conduire à ce radical coudé, quoi. Et puis après, vous pouvez aussi forcer la pyramidalisation uniquement par la structure de la molécule. Donc, par exemple, ce radical tertiaire est nécessairement pyramidal. Par contre, ici, vous pouvez avoir, quand vous avez la conjugaison, au contraire, vous allez avoir des radicaux complètement plans. Donc, ici, vous avez aussi des radicaux, comme les radicaux vinyliques, qui vont, eux, s'invertir très, très rapidement. Donc à moins 180, vous voyez la cinétique, c'est quand même une grande rapidité. Donc ça, c'est des travaux des années 70-80 qui ont étudié tous ces rearrangements, ces pertes de configuration des intermédiaires radicalaires. Alors là aussi, c'est différent par rapport à la chimie, par exemple, anionique. C'est bien que vous faites un échange halogène à métal sur un vinyle bromure. Si vous prenez par exemple un bromure comme celui-ci et que vous mettez du terbutyl lithium, vous allez obtenir ce lithium, d'accord ? Plus du LIBR et ainsi de suite. Et ça, il est configurationnellement stable, en tout cas dans la température d'utilisation classique. Par contre, le radical, si vous passez par le radical, ce radical va en fait exister sous la forme ZE et donc vous allez avoir les deux isomères après hydrogénation, donc vous allez perdre complètement la configuration de la double liaison. Ce qui est quand même à prendre en compte aussi dans certains plans synthétiques. Alors, d'une façon générale, là, votre radical vinylique, il va être, on va dire qu'il va être coudé, il va être bent, sinon ici, il peut être linéaire. Ce qui favorise la linéarité des radicaux. Il n'y a pas beaucoup de groupes, en fait. Il y a principalement un aromatique ou des acides carboxyliques, et c'est des papiers de ce type-là, où là, il y a beaucoup de RPE, typiquement, et d'analyse structurale. Et dans le cas du phényl, vous avez une délocalisation du spin sur le cycle aromatique. Et donc, globalement, vous avez c'est ça qui va aider à avoir cette linéarité. Et donc, dans ce cas-là, votre carbone ici, on peut considérer que c'est un carbone hybridé SP. D'accord ? Alors qu'ici, votre carbone reste hybridé SP2. D'accord ? Alors, pour terminer, ce qui va qui est un principe qui va être important dès le cours prochain, c'est aussi les effets polaires. C'est-à-dire que globalement, contrairement à une idée simple, c'est que même s'ils sont neutres, les radicaux, il y a quand même des densités électroniques. Et donc, il va y avoir un caractère électrophile ou nucléophile qui peut s'exprimer. Et donc électrophile, bah, globalement, c'est assez simple, hein, comme le nom l'indique, c'est que globalement, il va y avoir une avidité électronique. Et donc, on va former l'espèce anionique, l'espèce anionique qui découlerait du radical, est-elle envisageable ou pas? Et si elle paraît envisageable, c'est que globalement, vous avez certainement un caractère électrophile assez important. Et inversement, nucléophile, si vous retirez un électron, est-ce que vous formez une espèce qui a l'air potentiellement existante, et donc ça vous donne une bonne idée. Donc ça, c'est une façon de raisonner, mais qui finalement marche quand même pas mal. Après, on va voir d'autres aspects aussi là-dessus, mais donc typiquement là, du coup, la substitution, elle vous aide à stabiliser par exemple un carbocation, et donc effectivement la nucléophilie des radicaux va augmenter avec la substitution. Donc là, par contre, ça reste assez vrai. La présence d'hétéroatomes, elle, va conduire à des hétéroatomes donneurs, va conduire à des radicaux nucléophiles. Tout simplement, par exemple, si vous prenez un radical ici, je reviens toujours sur le méthoxyme, on va mettre une amine, par exemple, un radical de ce type-là. Bah, comme vous pouvez écrire cette structure limite ici, où vous faites apparaître pratiquement un carbanion, donc évidemment ce radical a un caractère nucléophile important, d'accord. Donc par contre, les radicaux électrophiles, ça sera l'inverse, donc ils vont avoir des groupements pi conjugants accepteurs, et donc conduire à des plus facilement et donc vont agir plus facilement avec des centres riches en électrons. Donc c'est quoi les radicaux électrophiles? Ça va être R au point. Bah, R au point, on comprend bien, si vous donnez un électron à R au point, il va faire l'alcoxyde et c'est particulièrement stable. F point, c'est L point. Et donc, c'est surtout important, et c'est là que ça va être, c'est ça ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est qu'un radical nucléophile, globalement, quand il va interagir avec un partenaire, dans l'état de transition, on va avoir pratiquement un don d'électrons de ce nucléophile pour évoluer vers une espèce chargée positivement, et votre partenaire ici qui lui prend plutôt une densité, qui accepte une densité électronique, et inversement, un radical électrophile va pouvoir a tendance à arracher, quand il va réagir avec votre partenaire, plutôt à arracher un électron et évoluer vers ce couple où lui il a piqué un électron et lui se l'est appauvri. Donc, par exemple, typiquement, un radical électrophile va arracher un hydrogène sur un partenaire où il y a une densité électronique assez importante. Donc, c'est important, cette notion pour les transferts d'atomes, donc les HAT et la réaction intermoléculaire. Et il y a une revue qui est sortie récemment là-dessus, dont on reparlera la semaine prochaine. Un index aussi récent sur la nucléophilie et l'électrophilie, donc c'est un article de 2007, mais qui a classé environ 35 radicaux selon leur caractère électrophile ou nucléophile. Alors c'est des calculs, je n'ai pas mis les paramètres qui calculent, mais bon, globalement il y a deux extrêmes, hein, le radical F point, évidemment extrêmement électrophile, ça paraît logique. Celui-ci, très nucléophile, bah, en fait, il a tout pour, hein, il a 2-méthyl, cet oxygène. Et puis, entre les deux, vous avez différents types de radicaux. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple, il y a des choses qui sont surprenantes. Par exemple, un phényl, on sait jamais trop où le mettre. Et on voit que finalement, il est un peu au milieu, un petit peu plus nucléophile qu'électrophile. Mais ce qui est assez intéressant, c'est trifluorométhyl, du coup, parce que trifluorométhyl, on le voit toujours comme un radical extrêmement électrophile, et là, finalement, il s'avère finalement modérément, vraiment au milieu de la nucléophilie et l'électrophilie. Et finalement, c'est pas non plus si surprenant que ça, parce que le radical est électrophile. La réactivité parfois des radicaux trifluorométhanes n'est pas si ne montre pas tant autant d'électrophilie que cela, quoi. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte, et probablement d'ailleurs ça a été la difficulté de beaucoup de gens qui se sont lancés dans la chimie radicalaire assez rapidement suite à la catalyse photorédox, de ne pas analyser ces problèmes de nucléophilie et d'électrophilie des radicaux, parce que ça va, dans les réactions intermoléculaires, ça a beaucoup d'importance en fait. Alors, dans les réactions intramoléculaires, vous allez voir,
les phénomènes électroniques, électrophiles et nucléophilie, eux, sont plutôt nivelés. On a d'autres considérations, mais globalement, si vous programmez une réaction intermoléculaire, c'est des critères vraiment à prendre en compte. Et l'autre point qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne idée des cinétiques. Alors, il se trouve que la chimie radicalaire, vous avez pratiquement 100 ans de cinétique sous la main, donc il y a beaucoup de cinétiques qui sont connues. Et donc, clairement, ça, c'est important pour préparer des... Enfin, je veux dire, pour envisager des réactions. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que d'une façon générale, comme je vous l'ai dit, les vitesses des réactions radicalaires sont très rapides, mais surtout déjà, celle du radical que vous engendrez, lui, a une façon d'évoluer extrêmement rapide. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va dimériser très rapidement, il va se disproportionner, ça, on en a déjà parlé. Donc, ça veut dire aussi que si vous... Quand vous engendrez un radical, vous voulez l'utiliser pour faire de la chimie, il faut que vous ayez en tête cette compétition potentielle. D'accord ? C'est-à-dire que si vous voulez que votre radical s'additionne par exemple sur une double liaison, il faut éviter cette dimérisation ou cette disproportionnation. Donc ça veut dire généralement on va jouer un petit peu sur les équivalents, où on va engendrer le radical de façon lente, on ne va pas faire en sorte que 100% du radical soit engendré, ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose qui est important. L'autre chose, c'est que alors, d'une façon générale, la difficulté, c'est que les réactions que vous proposez à un radical avec une molécule diamagnétique, donc par exemple juste une addition, elles sont de nature quand même plus lentes. Alors elles peuvent être quand même, heureusement, il y a quand même des réactions d'addition qui peuvent être très rapides, mais certaines sont plus lentes, donc il faut vraiment programmer les réactions en tenant compte des cinétiques, donc comme je répète, donc jouer sur les nombres d'équivalents et ainsi de suite. Ce qui est très clair, c'est que toutes les cinétiques radicalaires, elles sont beaucoup plus rapides que les processus ioniques. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, ce qui fait aussi potentiellement malgré tout un avantage. Alors, ça, c'est les étapes élémentaires, mais après, vous avez votre réaction, elle, que vous avez pratiquée. Et ce n'est pas parce que les étapes élémentaires sont très rapides que votre réaction, on va dire d'un point de vue macroscopique, est très rapide, parce que vous pouvez avoir des problèmes de génération des radicaux ou une réaction en chaîne qui n'est pas totalement efficace. Donc, globalement, ce qui est très important ici, c'est de vraiment jouer sur les phénomènes, sur la concentration et l'efficacité des réactions en chaîne. Et donc avoir des processus d'initiation qui marchent bien. Donc il y a tout un design de choses. Donc typiquement, en plus, si vous commencez à mettre une source lumineuse, à quel point votre source lumineuse va favoriser ou pas la formation du radical initiateur et ainsi de suite. Donc voilà. Donc la bonne chose, c'est que globalement, l'expérience sur ce genre de choses, ça s'améliore. L'optimisation des procédés est beaucoup plus facile maintenant qu'avant, et puis le sera de plus en plus de toute façon. Mais bon, voilà, donc il faut quand même un petit peu se cultiver avant de lancer une réaction radicalaire, parce que tout n'est pas permis, même si les intermédiaires sont réactifs. Et j'ai envie de dire, c'est parce que justement les intermédiaires sont très réactifs que tout n'est pas permis, parce que sinon vous allez confronter à être pas mal de réactivité adverse. Mais vous verrez quand même que ça marche très bien. Ce n'est pas un message pessimiste, c'est plutôt un message de mise en garde positif pour utiliser ces processus. Donc le prochain cours, on va le faire sur les additions intermoléculaires, les réactions d'hydrogène, d'abstraction d'hydrogène, qui sont quand même finalement une activation CH très désirable. Comme vous le savez, quand on peut fonctionnaliser des groupements alcane sans groupement préétabli, c'est bien. Alors, évidemment, le pendant de ça, c'est qu'on va voir que il y a des sélectivités dans l'arrachement des liaisons carbone-hydrogène, puisque c'est quand même dirigé justement par ces problèmes de BDE, mais ça peut être aussi des problèmes stériques et ainsi de suite. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.